tous, bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Que fait l'école pour ceux qui n'y trouvent pas leur place? On va profiter des vacances scolaires pour faire un premier bilan de cette année si particulière avec notre invité. Il est enseignant à Marseille, professeur en SECPA, c'est une section d'enseignement général et professionnel adapté. Il s'appelle Rachid Zerouki. Il sera notre invité à partir de 12h55, lui l'auteur des Incasables. Mais d'abord, Claire Aupert, corde sensible, la violoncelliste pratique la musique aussi comme thérapie pour les patients en soins palliatifs ou encore précédemment pour les autistes. Elle a signé cette année le pansement Schubert chez De Noël. Elle nous dira quelles sont les vertus et les miracles réalisés par ce pansement si particulier. Elle est notre invitée. Écoutez tout de suite sur France Culture jusqu'à 12h30 ou plus tard si vous le souhaitez en podcast à partir de la toute nouvelle appli Radio France.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour à vous, Claire Aupert.
Bonjour.
Plaisir de vous avoir avec nous à distance, mais néanmoins avec nous pour cette émission du 24 décembre. Quelle serait d'ailleurs la musique que vous auriez envie de jouer ou de fredonner si c'était une chanson aujourd'hui?
Si c'était une chanson toute simple, peut-être une chanson d'enfance. Moi j'aime énormément Schubert et j'aime la musique aussi romantique. Mais peut-être là, à l'instant, dans les bois qui m'entourent, une chanson d'enfance.
Alors on va écouter Schubert avec ce trio numéro 2 de Schubert. Ça, c'est un extrait de ce morceau de Schubert que vous avez enregistré, Claire Aupert, pendant le premier confinement, qu'on a pu retrouver sur YouTube. Heureuse de pouvoir vous entendre, du coup, à la manette, à l'instrument, avec ce morceau de Schubert qui a donné son nom à un pansement que vous avez imaginé et à un livre qui raconte cette aventure incroyable de la musique dans les hôpitaux, de la musique auprès des patients, des malades que vous pratiquez. Que nous dit Schubert déjà dans ce morceau? Qu'est-ce que vous y entendez, vous, dans ce morceau?
Il y a dans Schubert quelque chose qui est très proche du récit. Il y a une poésie extrêmement mélancolique et douce et profondément humaine. Schubert parle toujours du voyageur solitaire en lui. Il y a quelque chose de l'ordre de l'errance. Et la musique de Schubert qui, un jour, que j'ai joué spontanément auprès d'une résidente démente dans un EHPAD, est devenue effectivement la base d'une étude clinique chiffrée et suivie pendant 5 ans, où on a montré que cette musique très très profonde arrivait à toucher la partie sensible non malade de chaque personne et diminuer ainsi la douleur. Donc c'est effectivement ce Schubert que j'ai joué un jour spontanément pour une résidente dont les infirmières n'arrivaient pas à faire le pansement, et à l'écoute des premières mesures déjà de ce thème sublime de Schubert, la patiente a abandonné son bras et le pansement a été réalisé très rapidement. À la suite de quoi les infirmières m'ont demandé, sous la forme d'une boutade d'ailleurs, de revenir pour le pansement Schubert. Donc je suis revenue 112 fois, puisque nous avons fait à l'hôpital Sainte-Périne à Paris avec le docteur Jean-Marie Gomas une étude clinique basée sur cette idée que la musique a un pouvoir de soulagement de la douleur, qui est quelque chose qui remonte au début de l'humanité, et également de soulagement de l'anxiété. Et nous avons pu prouver avec des paramètres cliniques précis, en les mesurant avant, pendant et après le soin, que la présence d'un violoncelle, donc la musique vivante, pouvait avoir ce, cet effet, cet impact bénéfique sur le ressenti de la douleur des patients et également d'ailleurs des soignants et également des familles. Ça a été une grande réflexion et une étude conjointe sur ce pouvoir apaisant de la musique.
Claire Oppert, on entend dans ce morceau effectivement d'infinies variations, des touches plus sombres et puis tout à coup un horizon d'espoir qui semble se développer. C'est ça le pensement Schubert tel que vous l'avez imaginé, né d'abord d'une intuition, d'un ressenti. Vous l'avez traduit à travers un protocole clinique, hein, avec peut-être à travers ce protocole défini un objectif thérapeutique qui serait un peu mieux établi, comme vous le disiez, l'objectif étant la diminution de la douleur ou de l'anxiété au moment des actes infirmiers, au moment aussi dans ces moments difficiles pour les malades ou les patients. Il reste néanmoins, on l'imagine, Claire Oppert, une grande part de mystère, hein, dans tout ça, et c'est tant mieux.
Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, le fait d'essayer de mesurer et de prouver pour que ce type de démarche puisse avoir une crédibilité et un fondement scientifique auprès des facultés de médecine et puis de toute personne qui demanderait des preuves n'empêche pas de ressentir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas mesurer, et particulièrement dans une étude comme celle que nous avons menée à l'hôpital Sainte-Périne, évidemment avec des échelles de douleur. Nous avons pu mesurer la diminution de cette douleur quand les patients pouvaient s'exprimer, ou bien des relaxations musculaires très très visibles sur des patients qui ne pouvaient pas s'exprimer, ou bien le pli du front qui s'effaçait comme la mer efface le sable. C'est-à-dire qu'on a été confronté au fait qu'il y avait beaucoup d'éléments aussi subjectifs, c'est-à-dire qu'à la fois on pouvait mesurer la diminution de la douleur, mais que beaucoup de choses n'étaient pas mesurables, pas quantifiables, et comme vous dites, heureusement. Et on est toujours en présence, effectivement, d'un mystère qui, est, en quelque sorte, demeure caché en pleine lumière, c'est-à-dire qu'on assiste à une transformation, et ça c'est vrai aussi bien pour les patients douloureux que pour les patients déments, que pour les grands autistes ou les personnes en fin de vie. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère qui subsiste quand la musique vient toucher cette partie très très profonde en chacun de nous, comme si elle allait rejoindre quelque chose qui se réveillait, un peu comme un principe de sympathie, un phénomène de résonance entre deux cordes, qui lui est quand même difficile à mesurer, et heureusement d'ailleurs.
Claire Oppert, je pense qu'on est à distance, ce qui rend toujours les échanges un peu plus compliqués, mais on vous remercie vraiment d'être là avec nous aujourd'hui. Peut-être essayer de vous mettre un tout petit peu face à votre micro et de ne pas trop bouger pour qu'on puisse vous avoir le plus présente possible avec nous. La maladie grave est une expérience du délogement de soi, écrivez-vous dans le pansement Schubert. Elle assaille le corps, enchaîne les pertes successives. Elle conteste à la personne son pouvoir d'agir sur elle-même. Elle la laisse dépourvue, étrangère à elle-même, sans demeure stable et identifiée. Où et comment intervient la musique là-dedans, dans ce moment où le corps semble en roue libre, hein, d'une certaine manière?
En fait, il semblerait que la musique pénètre le corps avant même de pénétrer l'âme. C'est ce que disait en tout cas Platon quand il définissait le principe d'éducation et le pouvoir éducatif de la musique. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le corps, c'est ce que disent les patients. Et nous avons réalisé une étude justement en essayant d'analyser 450 paroles qu'ont prononcé les patients après avoir entendu le violoncelle dans leur chambre, au lit du patient. Et ce qui est intéressant, c'est que les mots les plus forts et les plus fréquemment utilisés par les patients, donc sur 450 paroles prononcées, c'est d'abord le mot « vibration ». Et c'est très impressionnant de voir que cette vibration est ressentie comme quelque chose qui vient tout d'abord de l'extérieur. C'est les ondes musicales en fait qui rentrent, et le mouvement que montrent les patients, même quand ils ne peuvent pas s'exprimer, c'est ce mouvement qui partirait des pieds et qui traverse le corps et qui va jusqu'au cœur. Donc avant même d'atteindre le cœur et puis ensuite peut-être l'intellect, la musique fait vibrer. Et je pense que ça, c'est son mode de fonctionnement. Et dans l'étude sur la douleur, ce qui est intéressant, c'est que il ne s'agit pas d'éviter finalement ce qui pourrait sembler un biais méthodologique, c'est-à-dire cette émotion, cette vibration, mais au contraire de la prendre comme un moteur même de l'amélioration, un moteur du mieux-être et du prendre soin. Donc c'est la vibration aussi par le fait que mon violoncelle résonne vraiment au lit du patient. Ce n'est pas un enregistrement et la musique est reçue au moment même où en fait elle est offerte.
La musicothérapie, en fait, c'est une médecine toute jeune, hein ?
Alors, comment dire ? Oui et non, il y a une définition de l'art-thérapie qui est la suivante, c'est une discipline d'avant-garde aux antécédents millénaires, parce que à la fois c'est relativement récent, l'apaisement donc non seulement de la douleur et de l'anxiété, mais aussi c'est appliqué dans de très très nombreux domaines. Mais en même temps, c'est quelque chose qui remonte vraiment à l'Antiquité. Les Grecs, par exemple, Asclépios, qui est Esculape chez les Romains, ordonnait à ses malades d'écouter de la musique et de réciter des poèmes. Il était considéré comme le dieu des médecins. Et même Apollon, qui était le dieu de la beauté, de la poésie, de l'harmonie, était en fait aussi le dieu de la médecine. Et je pense qu'il y a un lien très, très, très fondamental, effectivement, entre l'art et le soin, et ça c'était mon grand idéal de toute ma vie, peut-être à travers la profession de mes parents, ma mère était artiste et mon père médecin, et j'ai toujours eu ce désir de réconcilier, ou en tout cas d'unir le monde de l'art et le monde du soin, dans une démarche en tout cas de prendre soin. Parce que le pansement Schubert n'élimine pas toutes les douleurs, le pansement Schubert ne guérit pas les cancers, c'est vraiment un complément dans une équipe pluridisciplinaire, telle qu'il est en tout cas pratiqué en soins palliatifs, ce que je fais depuis 10 ans, s'adresse à la personne non malade, c'est-à-dire à la partie saine, vivante et non touchée par la pathologie. Et c'est ça qui est un élément très lumineux dans une équipe pluridisciplinaire, c'est que l'art thérapeute musical ou la musicienne thérapeute, la violoncelliste soignante, il y a beaucoup de façons d'en parler, eh bien, s'adresse effectivement à une partie qui n'est pas malade. Je pense que c'est une des choses les plus importantes et effectivement, cela remonte au début de l'humanité. Après, il y a les traitements, la méthodologie, toutes les différentes conceptions, l'établissement comme discipline paramédicale, méthodologiquement prouvée, c'est quelque chose de plus récent. Mais c'est un phénomène vraiment très ancien et ça lui donne encore plus de force. Hein. Ce n'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe depuis toujours.
Voilà, la musique ne guérit pas, elle soulage, elle accompagne, comme vous le dites très joliment, cette part lumineuse. Hein. À l'instant, Claire Aupert, elle détourne peut-être aussi un peu l'attention du patient, de la douleur qu'il ressent. Vous allez nous raconter un exemple, une histoire, celle de Monsieur Loiseau, si vous le voulez bien. Mais d'abord, il faut entrer dans cette histoire avec Gabriel Fauret et un extrait de « Après un rêve ». Thank you. Après un rêve du pianiste et compositeur français Gabriel Fauré dans cette transcription de cette célèbre mélodie pour violoncelle, interprétée ici par le violoncelliste américain Yo-Yo Ma, extrait d'un enregistrement paru sur le label, enfin en tout cas chez Sony. Voilà, avec nous Claire Aupert, violoncelliste également. Ce morceau, vous l'avez interprété en concert, mais surtout aussi dans des hôpitaux pour lesquels vous travaillez régulièrement, chez qui vous vous rendez, parce que vous avez cette double casquette et personnalité d'être à la fois instrumentiste, musicienne et aussi soignante. Soignante avec votre outil à vous, qui est donc la musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle expérience avez-vous vécu de si particulier, si particulière avec cette musique de Gabriel Fauré, Claire Aupert?
Donc en fait, il faut se représenter le contexte. Donc j'arrive dans une unité de soins palliatifs. Dans ce cas, c'était à l'hôpital Sainte-Périne à Paris. Et donc je vais rendre visite en quelque sorte à chaque patient après avoir parlé aux médecins, aux soignants qui m'ont indiqué un peu qui pourrait bénéficier de cette séance de musique. Et quand je suis rentrée donc chez Monsieur Loiseau, c'était un patient de 46 ans qui était séropositif, qui avait également un cancer métastasé et une hépatite C. Il n'avait jamais de visite. Il vivait dans une immense solitude et quand je suis rentrée avec mon instrument, il m'a accueillie tout de suite avec un grand sourire, m'a immédiatement tutoyée et m'a demandé « joue-moi quelque chose d'apaisant » car la nuit était terrible. Donc il y avait une vraie demande de sa part immédiate. Donc j'ai joué après un rêve, c'était quelque chose qui m'est venu spontanément. Il a écouté, il était assis en tailleur sur son lit et en fait il a réussi à exprimer d'une façon extraordinaire tout ce qu'il ressentait. Donc il a dit d'abord « je sens l'émotion, puis je sens ma fragilité ». Et à ce moment-là, il m'a montré ses bras et il m'a dit « regarde, je suis couvert de chair de poule ». En fait, la musique l'avait atteint dans sa sensorialité profonde. Et puis il continuait à méditer et à dire ce qu'il ressentait. Et il disait « c'est comme si la musique me donnait les moyens de faire en sorte que quelque chose jaillisse ». Donc il avait à la fois la nécessité d'extérioriser à la fois une souffrance, d'ailleurs il l'a dit, c'est comme si ma souffrance pouvait jaillir. Et ça c'est un des effets très très profonds de la musique, c'est qu'elle va appeler tout d'abord des souvenirs enfouis, mais qu'elle a aussi cette capacité cathartique, purificatrice des émotions, de sortir parfois des choses profondément enfouies qui finalement, sans l'aide des mots, sans l'aide du voile des mots, puisque comme le dit Bergson, vont directement finalement toucher une partie qui est bien au-delà des mots. En fait, il a tout de suite eu cette phrase aussi étonnante, il a dit « c'est comme si c'était un partage ». Et dans la musique, il y a un effet effectivement relationnel. Je parlais tout à l'heure de deux cordes qui vibrent à l'unisson. Et puis il y a ce pouvoir d'entraînement. Et il disait « si tu venais tous les jours, ça me permettrait de vivre plus ». En fait, il avait envie d'être compris. Et il disait que, après un rêve de Gabriel Fauré, lui offrait un chemin en fait pour sortir. Il se sentait comme si on le déligotait. C'était une porte de sortie. Et en fait, ce qui a été extraordinaire avec ce patient, comme avec beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est qu'il me montrait donc la chair de poule sur son bras comme un effet très très impressionnant, que lui-même trouvait impressionnant. Et ce patient, je l'ai retrouvé la semaine suivante. Il était déjà dans le coma, parce que souvent il y a une détérioration, une altération de l'état, parce que la pathologie avance. Mais quand je suis rentrée, j'ai joué pour lui auprès de son lit, pour lui, après un rêve de Gabriel Fauré. Et ce qui a été incroyable, c'est que j'ai vu, même s'il était non parlant, bien sûr, non communicant, qu'il était dans un coma déjà assez profond, ses bras se sont couverts de chair de poule. Et c'est comme si la musique continuait, même dans des états de vigilance réduite, de sédation ou de coma, à toucher profondément la personne dans son corps, dans son émotion également, puisque souvent j'ai vu des patients, des larmes qui coulaient, des pieds qui bougeaient, et surtout le souffle des patients dans le coma à l'écoute du violoncelle qui se modifie de façon très impressionnante. Les paramètres respiratoires changent dès les premières secondes, en fait, quand le violoncelle chante. Et ça, c'est toujours un signe pour les familles qui sont présentes dans la chambre que leur proche est encore là. Et on est en train de faire actuellement à l'hôpital Rive de Seine à Puteaux, où je travaille maintenant depuis 3 ans, une étude pour montrer comment cette présence vivante du violoncelle, cette résonance en fait, cette mise en résonance, va modifier le souffle même du patient, parfois jusqu'au dernier souffle, hein, puisqu'il m'est arrivé de jouer dans des pauses respiratoires de certains patients, quand le souffle s'arrête, puis le souffle revient, et la musique s'interpénètre avec cette respiration profonde d'une façon extrêmement bénéfique, qui parfois redonne du sens pour ceux qui sont autour.
Voilà, vous avez travaillé d'abord aux côtés du psychologue et du clown américain Howard Button, qui dirigeait en tout cas à ce moment-là, au moment où vous l'avez connu, un établissement en Seine-Saint-Denis pour jeunes autistes. Vous avez ensuite rejoint, entre autres, l'hôpital parisien Sainte-Périne que vous évoquiez tout à l'heure, et aujourd'hui l'hôpital Rive de Seine à Puteaux. Claire Aupert, c'est vrai qu'ils sont malades dans des soins, dans des services en soins palliatifs. Ceux qui vous écoutent et qui vous entendent jouer, ceux que vous accompagnez durant leurs soins ou dans leurs derniers moments, leurs derniers instants, vous les aidez à partir. Et ça, c'est quand même très particulier comme moment, comme partage aussi, hein. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là au fond de vous? Est-ce que vous ne cherchez pas d'une certaine manière aussi avec votre musique à les retenir, à les empêcher de traverser ce Styx?
Je ne pense pas que je cherche à retenir quoi que ce soit. J'essaye d'être finalement à ma juste place, c'est-à-dire que la musique qui résonne dans les derniers instants de la vie peut effectivement être un allègement, une sorte d'allègement du fardeau aussi de ce tragique, en fait, de la séparation, parce que la musique, même si elle est belle et si elle est orientée dans une visée thérapeutique, n'ôte rien au tragique de la séparation et de la souffrance aussi et de la douleur. Mais cet allègement qui est toujours ressenti comme une force qui circule, qui remet en relation aussi les personnes en présence dans la pièce, parfois par le souffle, hein, comme je disais, quand les proches voient la modification du souffle en disant « oui, mon proche est encore là et merci de m'avoir permis de lui faire chaud au cœur ». Donc c'est comme si la musique était ce canal, un possible canal d'une communication nouvelle et subtile, à la fois nouvelle et non nouvelle, comme je le disais tout à l'heure. Je ne sais pas, je ne pense pas que je cherche à retenir, mais il y a un enchantement en fait dans le monde sonore et dans la beauté finalement et l'harmonie de la musique. Et cet enchantement entre-ouvre les cœurs. Et je pense que c'est une forme de miracle, pas du tout un miracle dans le sens où brusquement la personne se relèverait et partirait de la chambre, mais un miracle dans le sens merveilleux, je trouve, de la définition de Christian Bobin que j'aime beaucoup. Il dit le miracle, finalement, c'est l'élancement du cœur, c'est la fusée de l'élancement du cœur. Et c'est un peu l'éclaircissement de la pensée. Et c'est souvent ce que je ressens, non pas que je retiens, mais en fait je suis l'accompagnante, celle qui est là, comme s'il y avait une sorte de kairos, un moment juste, un moment opportun, de partage, qui est concentré dans un moment unique, qui parfois est très court, mais on s'intéresse plus à la qualité qu'à la quantité du temps en soins palliatifs et on est concentré justement à donner ou essayer de donner le plus de sens possible car la vie est encore là jusqu'au bout et elle compte et elle est précieuse. Et c'est en quelque sorte ce que témoigne peut-être le fait de chanter après un rêve, de chanter, j'entends le violoncelle parce qu'il est une voix chantante, après un rêve ou toutes les musiques d'ailleurs que je peux traverser qui ne sont pas que classiques, c'est de dire que les personnes, même aux derniers instants, ont la capacité de s'émerveiller et une capacité de partage qui est finalement qui n'était pas visible au début et puis qui s'éveille.
Il nous reste moins d'une minute. Pour les autistes, vous l'écrivez, Claire Aupert, dans ce pansement Schubert paru chez De Noël, la musique du violoncelle est une porte de sortie émotionnelle. Et pour vous, le violoncelle, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui? C'est un prolongement de vous?
C'est peut-être une voix, et en tout cas c'est lui qui me permet d'aller à la rencontre. Alors là, vous parliez des autistes, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. J'ai eu la chance inouïe de travailler avec Howard Button pendant 6 ans dans son centre pour autistes, et il disait souvent que les vibrations de mon violoncelle traversaient. Alors c'est comme le mur de verre, c'est le titre de son dernier ouvrage, parce qu'il disait, nous, on doit être à la hauteur des autistes, finalement on doit se rendre suffisamment intéressant, il faut trouver des moyens de mériter leur attention. Et ce retournement du regard qu'avait Howard Buten et qu'il m'a appris au cours de toutes ces années, c'est quelque chose que je garde toujours. Je ne suis pas la sauveuse, je suis quelqu'un qui a une chance inouïe de pouvoir partager grâce à mon violoncelle des moments uniques qui sont en quelque sorte des cadeaux réciproques.
Voilà, comme un échange.
Merci aux patients.
Comme un échange,
et vous le dites, à la base de naissance.
Vous le dites souvent que la musique est comme un langage, hein, qu'elle suscite aussi des émotions nouvelles. Merci beaucoup à vous, Claire Hopper, d'avoir été avec nous. Votre pansement Schubert a paru chez De Noël. Merci pour toute cette expérience que vous vivez et que vous racontez et que vous avez pris le temps de partager avec nous.